Bonjour à tous et bienvenue dans ce module, une boîte à outils évolutive pour classer. Classifier consiste à regrouper des entités en classes pour faciliter l'action. La méthode du tri par carte permet par exemple d'organiser et de nommer l'information en fonction des modes de catégorisation des utilisateurs visés. Robert Glushko, dans son livre de 2013 « The Discipline of Organizing », distingue trois moments dans l'organisation de l'information. Le rassemblement des éléments à organiser, la définition des règles permettant d'organiser et enfin la présentation de cette organisation.
Ce module de cours est consacré aux outils historiquement utilisés pour organiser l'information, donc au deuxième moment identifié par Glushko. Nous aborderons également l'évolution vers de nouveaux types de classification basés sur les activités et la participation des internautes.
La réflexion sur cette thématique de la classification est déjà ancienne. Le paysage actuel des outils documentaires est composé d'outils nés suite à l'apparition de l'imprimerie et à l'augmentation fulgurante du nombre de documents papier diffusés et finalement à classer. De nouvelles approches et de nouveaux outils sont également utilisés aujourd'hui, en partie pour répondre au phénomène que l'on appelle l'explosion documentaire du web.
Nous verrons donc dans un premier temps les logiques et limites inhérentes aux approches traditionnelles avant d'aborder les approches nouvelles dans le domaine. Dans les outils historiques utilisés en bibliothèque et centres de documentation, on peut distinguer trois grandes familles qui correspondent à trois types de préoccupations. Le premier type d'outil concerne les informations permettant de décrire les ressources. Il s'agit de ce qu'on appelle les métadonnées. Par exemple, le titre, l'auteur, l'éditeur sont autant de données sur la ressource qui permettent de décrire et d'identifier un document. Traditionnellement, toutes les métadonnées utilisées pour décrire un document sont rassemblées sur des notices ou fiches bibliographiques. Les thésaurus sont des listes organisées de mots-clés proposant des liens sémantiques entre les différents items concernés. Ils sont utilisés tant pour l'indexation que pour la recherche. Citons enfin les outils qui organisent les collections. Ces classifications types reposent sur des schémas de classification. Nous pouvons citer en exemple celle de Dewey ou la CDU. Nous y reviendrons par la suite. Sur ces outils de classification issus de la tradition bibliothéconomique, il faut bien appréhender les trois dimensions suivantes. D'une part, la fonction cognitive, détachée des documents en eux-mêmes, mais qui permet l'organisation des concepts identifiés dans la collection documentaire. En deuxième lieu, la fonction des schémas de classification concerne l'organisation des représentations des documents les unes par rapport aux autres dans le système global de documentation. Nous faisons référence ici notamment aux notices bibliographiques. Enfin, la troisième fonction est une fonction bibliothéconomique, c'est-à-dire qui permet le rangement des documents dans un espace, qu'il soit physique ou virtuel.
Depuis le XVIe siècle, le développement simultané de la production de documents imprimés et d'une recherche scientifique formalisée conduisent à mettre en place des façons d'organiser le savoir de manière rationnelle et hiérarchique. Ainsi, depuis celle de Gesner au XVIe siècle jusqu'à celle proposée par Hotley et La Fontaine début XXe, plusieurs types de classifications hiérarchiques se sont succédé et ont cohabité. On passe ici d'une classification ayant pour but d'organiser et hiérarchiser le savoir universel à des classifications plus opérationnelles. Elles allouent des codes aux documents en vue de faciliter leur traitement physique dans la bibliothèque.
Gesner, au XVIe siècle, propose une organisation du savoir en 21 classes. Bacon, au XVIIe siècle, répartit les sciences en trois champs disciplinaires, trois catégories, mémoire, imagination et raison. Peu après, Naudé, quant à lui, divise les disciplines en sept catégories. Basée sur celle de Bacon, la classification de Dewey, fin 19e, distingue 9 disciplines fondamentales et une catégorie généralité. Enfin, La Fontaine et Hotley, début 20e, s'inspirent de Dewey pour proposer la classification décimale universelle, CDU.
L'approche proposée par Ranganathan est en rupture avec celle que nous venons d'évoquer. En effet, ce mathématicien et bibliothécaire indien a eu l'idée de créer un type de classification originale puisque basée sur la description des documents selon 5 attributs, 5 catégories fondamentales désignées sous le nom de facettes. Les facettes doivent être définies de façon pragmatique au cas par cas. Voici quelques exemples de facettes, le temps, le lieu, le thème, la personne. On peut imaginer par exemple des facettes de contexte.
Il y a une vingtaine d'années, des tentatives pour adapter les classifications utilisées en bibliothèque à la nouvelle donne numérique ont été lancées. FRBR, d'une part, et le Dublin Core, d'autre part. Le FRBR définit les spécifications fonctionnelles des notices bibliographiques. Pour décrire les documents, quatre aspects doivent être pris en compte, du plus abstrait au plus concret. Il s'agit de...
L'œuvre, c'est-à-dire la création artistique ou intellectuelle véhiculée par le document. Par exemple, l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Ensuite, l'expression, soit l'une des interprétations de cette œuvre, par exemple, l'adaptation cinématographique par Tim Burton. Ensuite, la manifestation, qui représente les caractéristiques de la publication, par exemple l'édition collector du DVD. Et enfin, l'item, ou les caractéristiques de l'exemplaire qu'il est possible de tenir en main. Par exemple, un exemplaire particulier de ce DVD. À l'heure de la démultiplication des supports pour une même œuvre, par exemple l'édition originale, format poche, grand format, numérique, e-pub, etc., cette approche fournit à l'utilisateur d'un système documentaire une entrée unique par l'œuvre en elle-même, les différentes formes proposées étant des éléments de second niveau.
Le Dublin Core est une initiative internationale et participative. Elle donne les bases pour une uniformisation et une interopérabilité généralisée des métadonnées. Il s'agit d'une tentative de normalisation des métadonnées attribuables à tout document, y compris sur le web. Le Dublin Core comprend dans son noyau 15 éléments de description du contenu, titre, sujet, langue, etc., de la propriété intellectuelle, auteur, contributeur, éditeur, et de l'instanciation même de l'objet décrit, sa date ou son format.
L'organisation de l'information est longtemps restée le privilège de professionnels du domaine. Le développement du web participatif a ouvert récemment la porte à une nouvelle façon de trier, basée sur les utilisateurs profanes. On l'a vu traditionnellement, l'objectif de la classification documentaire est d'assigner une place physique aux documents de manière à les ranger en un ensemble cohérent et à pouvoir les retrouver. Avec le numérique, l'enjeu est comparable. Il s'agit de donner des chemins d'accès au contenu et de les présenter via des interfaces, si possible de manière adaptive, c'est-à-dire par exemple tenant compte de la taille des écrans des différents types de dispositifs utilisés, comme les smartphones. Comme le dit Thomas van der Waal, architecte de l'information et inventaire du terme folksonomie, chaque personne est experte en ce qui concerne son propre vocabulaire. Ainsi, de plus en plus, l'organisation de l'information sur le web repose aujourd'hui sur la participation des usagers.
Par exemple, le recours à des utilisateurs non professionnels afin de décrire et catégoriser des corpus volumineux ou pour lesquels des connaissances très spécialisées sont nécessaires est également une opportunité rendue possible grâce aux outils du Web 2.0. On parle ici de crowdsourcing ou d'externalisation ouverte. Le tagging collaboratif ou folksonomy consiste à partager l'activité d'indexation d'un document au niveau d'une communauté d'utilisateurs, formalisée ou non. Ce mode d'organisation documentaire a émergé au début des années 2000, avec la croissance de services en ligne basés sur cette fonctionnalité et dédiés également à des documents non textuels, comme Delicious ou Flickr. L'ensemble des utilisateurs d'un service se voit offrir la possibilité d'ajouter à un document des mots-clés libres, non issus d'une liste préétablie par des professionnels. L'approche provient des usages. L'accumulation de mots-clés sur chaque document permet de faire émerger une organisation a priori pertinente pour les utilisateurs. Elle est basée en effet sur des termes qui leur sont familiers. Ces mécanismes remettent fortement en cause le processus unidirectionnel et centralisé jusqu'ici mis en œuvre en matière de traitement documentaire. Dans le même ordre d'idées, le recours aux hashtags ou aux traces laissées par les internautes sont de nouvelles manières d'aborder les questions d'organisation de l'information associant l'utilisateur, au même titre également que le tri par carte.
Pour conclure, nous proposons aujourd'hui une reformulation, une adaptation au monde 2.0 des 5 lois de la bibliothéconomie énoncées par Ranganathan, l'inventeur de la classification à facettes. Ces lois datent du tout début des années 1930 et avaient pour objectif de faire en sorte que les services de bibliothèque et de documentation placent l'usager au centre de leurs préoccupations et tiennent réellement compte de ses besoins, attentes et satisfactions.
Adaptée au web, la première loi, les livres sont faits pour être utilisés, deviendrait ainsi, les sites sont faits pour être utilisés.
La deuxième, à chaque lecteur son livre, peut être reformulée en... À chaque internaute, ses sites.
La troisième loi, à chaque livre son lecteur, est facilement imaginable en à chaque site ses internautes.
Dans le même ordre d'idées, la quatrième loi, épargnons du temps au lecteur, peut être envisagée de la manière suivante, épargnons le temps de l'internaute. C'est bien là l'un des objectifs de l'architecte de l'information.
Enfin, un site web est une entité en développement incessant. pourrait remplacer la cinquième et dernière loi. Une bibliothèque est un organisme en développement.
Nous en avons maintenant terminé. Nous espérons que ce module vous aura permis de découvrir et mieux comprendre la diversité des outils de classement et leur évolution. Merci de votre attention. Au revoir.